6h02, vendredi, donc 17 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est un matin froid, un matin de janvier. On a moins 18 avec un ciel généralement dégagé. C'est une très, très belle journée qui s'annonce, avec du soleil, des vents légers. Le maximum prévu pour aujourd'hui, autour de moins 12 degrés. Mais bien sûr, avec les vents, le facteur refroidissement sera quand même assez élevé. Et si on fait un point de comparaison, le moins 12 comme maximum aujourd'hui, à Saguenay, c'est moins 21, l'Abitibi également. Alors vraiment, des avertissements de froid intenses pour ces régions. Maintenant, après le soleil, on peut dire qu'au cours de la soirée, ce sera toujours un ciel dégagé, moins 24 durant la nuit. Également, samedi, ça commence par des nuages et la neige est prévue pour l'après-midi. Alors, si je résume le scénario à ce moment-ci du week-end, on prévoit peut-être une dizaine, quinzaine de centimètres de neige en fin de semaine. Ça commence tout doucement en après-midi. Ça se poursuit en soirée et ça devrait se terminer dimanche au cours de l'avant-midi. Donc, au total, on aura une dizaine, douzaine de centimètres de neige. Et vous pouvez aussi ajouter par endroit de la poudrerie en raison justement de vents qui sont anticipés, notamment dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, pour samedi, c'est un maximum prévu de moins 13. Dans la nuit, c'est moins 14. Et dimanche, maximum autour de moins 8. Et là, ça se dégage et par la suite, les températures vont tomber. Je sais que quand un drame comme ça arrive, quand un homme est accusé, encore une fois, d'avoir tué sa femme, on verra la nature précise des accusations et évidemment le procès qui va suivre, ça vient interpeller beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'auditrices. Et hier, j'entendais, en fait, je voyais aussi les commentaires de proches qui disaient « Ah, ben vous savez, c'est la famille parfaite, c'est un modèle, bon. » J'haïs ça, moi, quand on va sonder les proches, les amis. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Là, ce qu'on comprend dans ce cas-là, c'est que c'est un monsieur qui, à son travail, aurait fait l'objet d'allégations. La police s'est mêlée de ça. On ne peut pas entrer dans les détails. Marie-Laurence m'a jasé ça un peu tantôt. Mais disons que ça a peut-être amené une escalade dans le couple. Et est arrivé ce qu'on pense, ce qu'on présume qui est arrivé. Donc, une bagarre qui s'est terminée par le décès. Puis pensez à ces enfants. On parlait du traumatisme que vivent des enfants qui sont exposés à de la violence. Là, il y a des enfants, il y a un bébé, je pense qu'il y a un an, puis l'aîné a 12 ans, mais qui ont été témoins, dans certains cas, peut-être pas tous les enfants, mais certains d'entre eux, de cette rage, puis de cette violence, puis ultimement, ils ont perdu leur mère. C'est épouvantable. Et ils vont se retrouver avec, évidemment, beaucoup de séquelles. Puis il faut souligner, je pense, le doigté des enquêteurs quand vient le moment d'approcher des enfants dans de telles circonstances. Puis c'est rare, en fait, c'est rare. Ça arrive, mais pas si souvent que ça, heureusement, que des enquêteurs doivent interroger des enfants dans des histoires de meurtre. Mais là, on a fait appel au soutien de chiens pour, justement, créer un environnement propice à les sécuriser au maximum pour essayer de savoir, bien sûr, ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Parlons de Lino Saputo. Hier, l'émission Enquête de Radio-Canada. Une heure, donc, vraiment un travail poussé. Et si je résume, Lino Saputo a publié une autobiographie il y a quelques mois de ça. Et je lisais l'article de Jean-Philippe Descaries dans La Presse qui a interviewé Lino Saputo. Essentiellement, M. Saputo dit « La réputation, c'est plus important que la richesse. » Il a 82 ans, à la tête d'un empire, c'est le Québécois le plus riche. On dit que sa fortune vaut plus de 5 milliards. Et depuis toujours, il y a des allégations qui l'entourent concernant de liens potentiels avec la mafia, avec le crime organisé. M. Saputo s'est toujours défendu de ça en disant « C'est faux. J'ai une vie honnête. J'ai travaillé de façon légale. » Et toutes les allégations ne tiennent pas la route. La seule chose que l'on sait, c'est que Joe Bonanno, qui était le chef de la famille, une des familles de la mafia de New York, qui un jour a dû s'exiler à Montréal parce que sa tête était mise à prix, a été un des premiers investisseurs dans Saputo, dans l'entreprise de départ qui est devenu, on le sait, un empire. M. Saputo dit que c'est un intermédiaire qui a suggéré au père de M. Saputo à l'époque de solliciter Joe Bonanno pour qu'il investisse dans l'entreprise. Il ne savait pas que Bonanno était un mafieux, et quand ils l'ont su, ils ont coupé les liens d'affaires. Or, dans l'émission Enquête hier, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'il y a un enquêteur américain qui travaillait sur Joe Bonanno, qui par la suite s'était établi en Arizona, et que cet enquêteur a découvert une série de preuves montrant des liens entre Joe Bonanno et l'Empire Saputo. Donc, documents, argent, coups de téléphone. Il semble donc, d'après ces éléments, M. Saputo aurait eu plus de liens qu'on pense avec Joe Bonanno. Également, Donald Côté, c'est un bijoutier, c'est un bandit, c'est une figure assez notoire du crime organisé qui fréquentait les Violi, les Cotroni. D'ailleurs, on dit que M. Saputo a aidé Violi et Cotroni dans certaines gestions d'affaires. Donc, c'est le mariage de ce gars-là, qui est un bijoutier, mais aussi un trafiquant criminel. Et il était le témoin au mariage. Puis on a des images où on voit ça. Puis on a des images également pour montrer l'anniversaire de mariage de Nick Rizzuto. Alors, il n'y a rien dans le document d'enquête, dans le reportage d'enquête, qui montre des activités criminelles de Lino Saputo. Il n'y a rien là, qui vient illustrer la thèse que j'ai déjà entendu et que Saputo a toujours évidemment nié en disant « c'est le vrai boss de la mafia, puis c'est lui qui contrôle ». Il n'y a rien de ça, là. Il a cependant eu des fréquentations qui remontent dans le temps, là. On parle des années 60, des années 70, des années 80, qui sont bien sûr embarrassantes. Tu ne peux pas dire que tu ne connais pas la mafia, tu ne peux pas dire que tu n'as jamais eu de contact quand tu te ramasses à une fête pour Nick Rizzuto, mais ça démontre que des fréquentations, pas d'activités criminelles. Les avocats de M. Saputo refusent évidemment que des entrevues soient données. On a fait nos démarches également de notre côté, mais maintiennent la même chose. Et je dois dire que le policier américain dit que le dossier a été transféré à la GRC puis qu'il n'y a jamais eu de suite. J'ai retrouvé un article publié en décembre 2007 où M. Saputo tentait de faire des investissements aux États-Unis. On sait que la compagnie a pris beaucoup d'ampleur rapidement. Et entre autres, on dit que la commission qui enquêtait sur le crime en Pennsylvanie, crime organisé, dans les années 80, avait fait un lien entre la compagnie Saputo et Joe Bonanno. En 80, la compagnie s'était vue refuser une licence pour une fromagerie dans l'État de New York, justement à cause de la relation avec M. Bonanno. 1978, également, implantation d'une usine de mozzarella au Vermont, et ça a été bloqué. Et finalement, la compagnie a été blanchie de toutes les allégations de lien avec le crime organisé et a pu poursuivre ses activités, entre autres aux États-Unis. Alors voilà pour l'histoire de Lino Saputo. On va aller rejoindre Marc tout de suite pour voir un peu comment ça va en ce début de vendredi. Bon, parlons maintenant de Jean Charest et de Marc Bibeau avec le refus de la Cour suprême d'entendre la cause de Marc Bibeau et donc le dévoilement du contenu, pas à 100%, là, mais quand même pas mal, de ces documents qui ont mené à la perquisition chez Marc Bibeau. Il n'y a rien de très nouveau. C'est une belle synthèse, là, mais la plupart des allégations, parce qu'on parle d'allégations, puis là, il faut faire bien attention, là, la police allègue que, à partir de rencontres qu'ils ont eues avec des témoins, supposément. L'essentiel a été présenté devant la commission Charbonneau. C'est de savoir que Marc Bibeau, là, c'était le roi du financement, et le tandem Charest-Bibeau a repoussé, je dirais, les limites du financement. C'est avant, là, puis la plupart des politiciens n'aiment pas ça faire du financement. Ça les fait suer. Bibeau est entré, puis les ministres à 100 000, puis là, met de la pression dans la machine. Ça a toujours donc existé, mais il a amené ça plus loin. Ça a été présenté devant la commission Charbonneau. Les histoires de prête-noms, les cocktails de financement, sollicités directement des firmes qui, par la suite, ont élaboré des scénarios avec des remboursements par des comptes de dépenses puis, ou des augmentations de rémunération, ça a été aussi présenté. Il y a d'autres éléments, notamment une rencontre avec Pierre Bibeault, où, paraît-il, on aurait demandé de l'argent. Et il y a un intermédiaire, là, près du ministre Wessel à l'époque, qui aurait dit « J'ai besoin d'argent pour Jean Charest ». Ça n'a pas été démontré, ça non plus. Donc, qu'est-ce que ces documents-là illustrent? Illustrent que le Parti libéral a poussé au maximum avec Bibeault les opérations de financement. Bibeault prétend qu'il y avait de l'influence. Il y a une employée au bureau du premier ministre qui prétend qu'il avait accès à des documents, alors que c'était pas un élu, c'était pas un fonctionnaire, c'était pas un membre du cabinet politique, mais qu'il avait accès à des documents du ministère des Transports. Et Bibeault répétait, quand il finançait, aux gens, « Je peux vous obtenir des contrats, j'ai de l'influence. Je suis capable de faire pencher la balance. » Est-ce que c'est une façon de collecter, de se bomber le torse, puis de montrer à celui que tu vas têter que tu es capable d'y obtenir un contrat? Il n'y a pas de démonstration dans ça, de rien. Il n'y a pas un lien là, qui montre que Bibeault a clairement fait pencher en direction de tel ou tel entrepreneur. Est-ce qu'ils ont eu des retours sur leurs investissements en finançant des partis politiques? Il n'y a pas de preuves. Et là, il faut savoir que Bibeault a multiplié, bien sûr, les démarches devant les tribunaux. Puis en plus de ça, ce qu'il a fait, c'est que ses avocats sont installés dans l'entreprise. Donc, tu as toute la notion de protéger la confidentialité des échanges entre le client puis l'avocat. Puis là, c'est dans la compagnie. Fait que comprenez-vous pourquoi ça dure depuis des années? Comprenez-vous pourquoi on n'est pas capable d'aller plus loin? Comprenez-vous pourquoi probablement ça va finir en queue de poisson? Ça, c'est sur le plan légal. Jean Charest décide qu'il lève la main, selon les rumeurs, puis il veut revenir en politique. Se présenter à la direction du Parti conservateur. Là, par exemple, c'est une opportunité. Parce que Charest a toujours dit, je ne comprends pas que la commission Charbonneau ne m'ait pas convoqué. J'aurais répondu à leurs questions. J'ai rien à cacher. J'ai fait ce que j'avais à faire. Bien là, il va devoir répondre aux questions. Il ne pourra pas se pousser, là. Tu sais, parce que la notion d'éthique puis d'intégrité, elle s'oppose. Quand tu sollicites un poste de chef, ultimement de premier ministre, là, on vient de démontrer, puis si on le savait, là, que le financement politique sous le règne Charest-Bibeault a atteint des sommets inégalés. Puis là, il y a des infractions à la loi du financement des partis politiques, on le sait, le phénomène des prêtres. Non, il y en a eu dans tous les partis, mais dans le cas du Parti libéral, c'est que ils ont pris le pouvoir à plusieurs reprises, puis ils ont gouverné, ce qui fait que les firmes disaient, puis pour avoir parlé à des gens qui étaient dans ce milieu-là, bien, tu sais, on prenait pas de chance. C'est aussi bien de leur en donner, peut-être que ça va nous profiter, puis on ne sait pas trop. Alors comment, parce que c'est ça la question de base, est-ce qu'on était capable d'influencer les décisions? Bibeault se prenait pour le boss. Il pouvait intimider du monde, il pouvait menacer des gens en disant, si t'as pas 100 000 comme financement, oublie ça. Puis, savez-vous quoi? Moi, je pense dans tout ça, là, quand je regarde, je pense à Nathalie Normando, qui traîne devant les tribunaux depuis des années, qui va voir peut-être son cas se régler au mois de mars. Tu te demandes, c'est pas un peu la bouc émissaire de tout ce système-là. Et l'autre question qu'on est obligé de poser, quand on connaît l'historique des affidavits dans certains cas, on peut penser dans l'affaire Ouellette, puis dans l'affaire également au SPVM, c'est quand vient le moment de préparer des affidavits, des fois, on a l'affidavit créatif. Des fois, je ne dis pas qu'on invente des affaires, mais on peut tourner ça et aller se trouver quelqu'un qui est ouvert, un juge. Faire attention à mes mots, là. Mais disons un juge qui est moins... qui pose pas trop de questions. En tout cas, qui pose le minimum. Puis là, puis ils sont connus. Alors, tu sais, fait que c'est bien beau ces documents-là. Lino Zambito a dit des choses qui se sont avérées vraies. Puis t'as un témoin qui vient confirmer ce que Zambito, donc, a dit. Fait que les histoires là, de financement, puis dans le fond, ce qui sont les gens visés par ça, c'est principalement Bibeault, par la bande Jean Charest, puis par la bande aussi Pierre Bibeault, qui s'occupait de financement. Alors, mais est-ce que Machuré va finir par aboutir? Perso, j'en doute. Parce que de démontrer là, qu'un contrat qui a été donné directement sous influence, on est au ministère des Transports, mais c'est sûr, en tout cas, qu'il emmenait large. Bombardier, on va en reparler avec Pierre-Yves tantôt, mais sérieusement, là, cette compagnie-là n'est pas très crédible et pas très fiable parce qu'ils font toutes sortes de promesses à chaque fois qu'on publie des résultats, puis ils ne sont pas capables de livrer. Puis juste rappeler là, que les Québécois, collectivement, ont mis du fric dans Bombardier. Et on regarde ça, puis on se dit, on risque de perdre l'argent. Puis peut-être qu'on va être obligé d'en remettre dans cette entreprise. Donc, ce que Bombardier nous a dit hier, c'est que malheureusement, on a des dépenses additionnelles, 350 millions pour ce qui est des projets à New York, à Londres, en Allemagne et en Suisse, des projets de train. Fait qu'on a mal budgété nos affaires, puis ça coûte 350 millions, puis ça vient plomber, évidemment, notre bilan financier. Et la réalité, c'est que Bombardier a besoin de fric. Il y a toutes sortes de rumeurs circulent. Réinvestissement des partenaires, ça veut dire Québec, la caisse de dépôt. Ça veut dire également la vente de certains actifs. On pense peut-être aux avions d'affaires. Et moi, ce qui me rend, disons, assez en tas, c'est quand je vois Alain Bellemare, tu comprends, qui collecte, qui nage dans la haute rémunération pour une entreprise qui ne livre pas depuis des années. Si toi, le petit actionnaire, t'as mis de l'argent dans Bombardier, ben sache que l'action est en bas de 2 piastres. Une baisse hier, là, de 32 %, c'est à 1 piastre, même pas 1,25 piastres, là, en bas de ça. Ça vaut pratiquement rien. Puis, Bellemare, lui, ça, c'est correct. Ça, c'est, on peut pas dire là, que c'est le leader là, qui est là depuis quoi? 5 ans? 4-5 ans? Là. À chaque fois, là, on ne respecte pas ce qu'on promet aux investisseurs. Puis lui, ben, il collecte. Il y a quelque chose là quand même. Ça, c'est le dossier Bombardier. Aussi, dans la presse ce matin, dossier de vaccination. Bon, je vais en reparler également plus tard, mais vous avez des parents qui ne s'entendent pas, OK? Monsieur veut faire vacciner l'enfant, madame ne veut pas, ils sont séparés. Puis là, c'est le conflit. Et là, il y a des jugements qui ont été rendus, 3 au total, dans les 6 derniers mois, au Québec et au Canada. Et les juges ont conclu que la vaccination s'imposait. Et on donnait raison à la science sur ces questions-là. Et évidemment, le père qui est cité, qui s'appelle Éric Côté, son enfant, lui, n'avait pas été vacciné. Il y a eu une coqueluche sévère au mois de septembre. Et là, il y avait comme un argumentaire avec son ex-conjointe qui, elle, refusait la vaccination. Parlons de l'Iran. Fabrice de Pierrebourg sera avec nous aussi un peu plus tard ce matin, toujours sur le territoire irakien. Donc, la conclusion de la journée d'hier, là, c'est un peu ce qu'on vous mentionnait en matinée, ça va prendre du temps avant de savoir ce qui s'est passé, si jamais un jour on sait ce qui s'est passé. C'est comme les armes de destruction massive qu'on nous annonçait pour justifier une guerre. Pas convaincu qu'on va avoir une réponse sur pourquoi cet avion commercial a été abattu. Comment ça se fait qu'on lui a permis de décoller? Comment ça se fait que les missiles ont été tirés malgré la présence de cet appareil dans le ciel? Puis comment ça se fait qu'on a ramassé l'avion et tué autant de personnes? Est-ce que l'Iran va payer des compensations? Là, hier, le ministre Garneau nous disait que le Canada va aider les familles, mais ça, c'est évidemment dans l'attente d'un règlement avec le gouvernement iranien. Et le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, dit que l'Iran est sous surveillance et qu'on attend des réponses du gouvernement iranien. Ça fait le tour de nos manchettes, on va s'arrêter là-dessus. Il est 6h22. Un accident sur la 20.